Vous écoutez France Culture.
Bonjour et bienvenue à tous dans le Club Science Publique. Merci d'être fidèle au rendez-vous quotidien des émissions de sciences de France Culture. Aujourd'hui, nous retrouvons le Club Science Publique et bien entendu, vos réflexions et vos commentaires sont toujours attendus sur le site de Science Publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Le genre peut-il s'opposer au sexe ? Il est bien rare qu'un simple chapitre d'un manuel scolaire soulève un tel débat. C'est pourtant ce qui s'est produit en cette rentrée scolaire 2011 au sujet du chapitre intitulé « Devenir homme ou femme » dans les manuels du programme de sciences et vie de la Terre des classes de première ES et L pour l'année scolaire 2011-2012. Le 30 août, 80 députés de l'UMP ont demandé le retrait des manuels scolaires incriminés. Le lundi 12 septembre, ce sont 113 sénateurs UMP, centristes et non inscrits qui ont emboîté le pas des députés en écrivant au ministère de l'Éducation, au ministre de l'Éducation, Luc Chatel, pour, je cite, « protester contre l'enseignement de la théorie du genre en classe de première ». Le journal La Croix explique que le débat se focalise autour de certaines pages des manuels, comme celle de l'édition d'Hachette, qui est intitulée « Le genre, une construction sociale ». Dans cette page, on peut lire que « la société construit en nous, à notre naissance, une idée des caractéristiques de notre sexe ». Le texte ajoute que si la référence au sexe traduit une réalité universelle, la construction du genre est variable dans le temps et dans l'espace. L'éditeur Belin, lui, souligne deux aspects complémentaires de la sexualité. L'identité sexuelle qui correspond au genre masculin et féminin et relève de l'espace social, et l'orientation sexuelle qui relève de l'intimité de la personne. L'Église catholique s'est également émue de cette introduction dans la notion de genre de l'influence du contexte socioculturel qui est à la base des réflexions de la philosophe féministe américaine Judith Butler qui, le 5 octobre, a reçu les insignes de docteur honoris causa à l'université de Bordeaux 3, ce qui a contribué à relancer le débat. Quels sont les fondements scientifiques, sociologiques et philosophiques d'un tel débat ? Faut-il exclure, comme le réclament les opposants aux textes figurant dans les manuels, toute considération non strictement scientifique dans les manuels de SVT ? Que sait-on aujourd'hui des relations entre sexe biologique et orientation sexuelle chez l'homme, mais également chez les animaux ? Ce débat ne traduit-il pas le malaise persistant de la société actuelle vis-à-vis de l'homosexualité, de la bisexualité ou de la transsexualité ? Telles sont les questions que nous allons aborder aujourd'hui dans le Club Science Publique en direct du studio 167 de la Maison de la Radio avec deux des membres réguliers de ce club, Jean-Claude Amezen, médecin, professeur d'immunologie à l'Université Paris 7, président du comité d'éthique de l'INSERM, et Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et à Sciences Po, et également à l'Agro Paris Tech. Et nous recevrons également deux invités, Thierry Hoquet, philosophe et maître de conférence à l'Université de Paris-Ouest Nanterre-la-Défense, et Priscille Touraille, anthropologue au Musée de l'Homme du Muséum National d'Histoire Naturelle. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires, vos réflexions sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Pierre-Henri Gouillon, bonjour.
Bonjour.
Ça, c'est à vous que revient la lourde tâche d'introduire ce débat. C'est vous qui l'avez suscité. Donc maintenant, il faut en prendre la responsabilité.
Je l'ai suscité, oui, parce qu'il y a à la fois une question qui est de nature qui m'intéresse, c'est-à-dire qui amène à l'interaction entre divers domaines du savoir, disons, la biologie et la philosophie, bien sûr, mais aussi l'anthropologie et les sciences humaines en général. Et puis parce qu'il y a une actualité là-dessus qui me semble un peu brûlante et je crois que ça vaut vraiment la peine qu'on en débatte. Moi, je suis biologiste et longtemps, je n'avais pas vu le problème, si vous voulez. Je pensais que ben voilà, il y avait des mâles et des femelles et puis ce n'était pas plus compliqué que ça. J'ai mis du temps avant de vraiment assimiler toutes ces questions. Comme je travaillais sur le sexe, j'ai fini par rencontrer des gens qui avaient un peu réfléchi à la question, comme par exemple Françoise Héritier, avec qui j'ai passé de longs moments à discuter de ces points, en privé et puis en public. Et maintenant, je pense que c'est vraiment un problème compliqué qui demande d'abord un travail auquel on n'est pas habitué, c'est que les scientifiques des sciences de la nature acceptent de dialoguer avec les gens des sciences humaines d'égal à égal et sans se croire supérieur, ce qui n'est pas toujours évident. Il n'y a qu'à voir ce que vous venez de dire sur le fait que si c'est les sciences humaines, ce n'est pas de la science. Quoi. En gros, hein, c'est ça qui a été dit.
C'est souvent l'argument utilisé.
C'est ça qui a été
utilisé.
Dit par les députés ou les sénateurs, je ne sais pas. Et puis, d'autre part, et à l'inverse quand même, ça demande à ce que les philosophes, les tenants des sciences humaines, acceptent de se mettre les mains dans le cambouis en discutant avec des biologistes, ce qui n'est pas non plus évident du tout. Il y a dans le domaine des sciences humaines une espèce de fierté à rien connaître à la science de la nature. Hein. Et donc, voilà, je crois que de ce point de vue-là, ce sujet est fondamental parce qu'il nous oblige à sortir un peu de nos rails et à discuter.
Absolument, et les composantes dont vous parlez, qui ont parfois du mal à se parler, sont autour de la table. Donc nous allons en profiter, en particulier en commençant avec vous, Priscille Touraille. Vous êtes anthropologue. Peut-être que vous pourriez nous expliquer quel est en fait l'objet de ce débat. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces manuels scolaires, dont on parle finalement très peu, qui en général font relativement consensus, là, ont provoqué une levée bouclier, en particulier, qui a été jusqu'au Parlement, puisque aussi bien sénateurs que députés se sont émus et ont demandé le retrait des manuels en question.
Je pense que l'opposition, elle se place justement sur la question du biologique. Et vous avez eu un article dans France Soir avec des propos du député UMP des Yvelines, je ne me souviens plus son nom, qui s'opposait aux analyses donc produites par les sciences sociales sur le genre. Et je pense que son argument est paradigmatique, je dirais, de l'offensive. Et l'argument, c'est celui-ci. Il dit on est NAIT, on est homme, on est femme, point, nous appartenons au monde des mammifères, virgule, c'est structurel. Et donc, pour moi, ça veut dire, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on est mâle, on est NAIT mâle et on est femelle. Ce n'est pas dans le sens de Simone de Beauvoir qui disait on ne naît pas femme. Hein. Ce n'est pas dans le sens.
On reviendra d'ailleurs sur la différence. Là, vous avez cité deux terminologies différentes, à la fois mâle et femelle, et puis masculin et féminin, d'une certaine façon, qui font référence à peut-être des notions différentes.
Oui, mais ce qui pose problème, c'est justement cette idée que. Que les études de genre remettraient aussi en question les notions de mâle et femelle comme des notions culturelles.
Biologique ou culturelle.
Je pense que c'est ce qui n'arrive pas à faire bien comprendre les études de genre, et notamment Judith Butler, c'est parce que Judith Butler, par exemple, dit le sexe, c'est du genre, mais c'est pas aussi clair que de dire les mâles et les femelles, ça serait du genre. Donc, je pense que, comme disait Pierre-Henri tout à l'heure, les études de genre n'ont pas assez réfléchi sur ce que c'est que le sexe. Et c'est vraiment important que les sciences sociales fassent un pas du côté des biologistes, parce que c'est important de négocier le concept de réel entre les différents champs scientifiques.
Alors peut-être pour établir aussi un petit peu le champ de cette discussion, Thierry Hoquet, on pourrait rappeler qui est Judith Butler, et qu'est-ce qu'est cette théorie du genre qui est au cœur du débat.
La théorie du genre, ça va bien au-delà, enfin, ça remonte bien avant Butler. Hein. C'est au départ l'idée qu'il y a une dualité entre sexe et genre. C'est l'idée que quand on définit les rôles et la division du travail entre les hommes et les femmes dans l'espèce humaine, eh bien, il y a certaines choses que l'on peut attribuer au biologique et d'autres choses qui relèvent de variabilité culturelle. Donc au départ, c'était ça l'idée, c'est qu'il y avait d'un côté un socle biologique et puis ensuite de l'autre côté des constructions sociales, des élaborations qui étaient faites sur ce sexe biologique. Ça, c'était, disons, la manière dont c'était conceptualisé dans les années 70. Et puis, en fait, on s'est dit, mais pourquoi, en fait, on accorderait au biologique une sorte de privilège? Et finalement, si on doit remettre en cause la division des rôles en s'interrogeant sur, justement, ce qui relève des contingences historiques et sociales, eh bien, jusqu'où est-ce qu'on doit remonter ? Et est-ce que la manière dont les sexes eux-mêmes sont problématisés, sont pensés, n'est pas déjà quelque chose d'historiquement variable ? Donc, c'est là qu'arrive cette idée de Butler que finalement, on ne doit pas considérer le sexe biologique lui-même comme un socle qui serait en dehors de l'histoire, mais qu'il faut également interroger le sexe au prisme des études de genre, c'est-à-dire au prisme de cette idée qu'il y a des inégalités qui structurent le champ de la pensée du sexe. Parce que le sexe, donc, n'est plus seulement... le genre, aujourd'hui, n'est plus seulement, disons, l'élaboration sociale qui se ferait sur une base biologique. C'est un véritable outil d'analyse des inégalités. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que ça ne se situe pas sur le même plan que la théorie biologique. Sauf que, finalement, ça permet aussi un regard critique sur certaines théories biologiques sur le sexe. Et ici, c'est très important que, finalement, l'introduction du genre dans les manuels de biologie, c'est une manière de dire, attention, quand on parle de mâle-femelle, on ne parle pas de homme et femme, c'est-à-dire quand on parle de homme et femme dans l'espèce humaine en particulier, il y a plein d'autres choses qui entrent en compte, des facteurs sociaux ou psychologiques, qui ne sont pas directement déductibles de ce qu'on apprend sur la reproduction, par exemple.
Jean-Claude Amezen.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense que nous sommes faits d'un nombre considérable de différences biologiques et ensuite culturelles et ensuite personnelles. Et ces différences biologiques, c'est un peu de l'ordre du donné. Vous savez que même deux jumeaux vrais, génétiquement identiques, ne sont pas et deviennent de moins en moins au fur et à mesure qu'ils grandissent, biologiquement identiques. Donc suivant le type de différence qu'on regarde, eh bien on voit de la variété, c'est cette variété qui fait la richesse de notre humanité. Pour moi, ce que je trouve intéressant dans la question du genre, que je connais mal dans la théorie du genre, c'est qu'il me semble que c'est un exemple pour dire l'important, c'est pas les différences, on peut les étudier, on peut les regarder, c'est ce qu'on en fait en termes de rôle dans la société, de devenir des personnes. Est-ce qu'on emprisonne dans un avenir déjà préétabli des personnes en fonction de différences qu'elles ont, c'est-à-dire est-ce qu'on segmente, on est tous différents, donc chacun devrait avoir une place particulière en fonction du sexe biologique, en fonction d'autres critères, ou est-ce qu'on considère que, à partir de ce donné, on construit. Et je crois que cette histoire, Thierry, auquel je disais, elle est ancienne. C'est la différence biologique majeure qu'est la différence sexuelle, mais ça a été très longtemps aussi la différence de couleur de peau. Qu'est-ce que ça nous dit sur le devenir, les potentialités d'une personne ? Et je crois que c'est le primatologue, l'éthologue Frans de Waal le dit de manière intéressante. Il demande, est-ce qu'il y a de la nature dans la culture ? Est-ce qu'il y a de la culture dans la nature ? C'est une question à laquelle nous ne pouvons répondre qu'en nous interrogeant sur notre propre nature. Réponse qui dépend de notre culture. Et donc le regard que nous portons sur des différences naturelles, elle est extrêmement mouvante, changeante, et elle est culturelle. Et je crois qu'il y a, Pierre-Henri citait, parce qu'elle a fait énormément de travaux depuis longtemps, et je pense qu'elle a pensé cette question de manière extrêmement profonde, Françoise Héritier, hein, qui dit, bien sûr, les femmes sont différentes des hommes, y compris pour des raisons biologiques évidentes. Mais ce qui l'intéresse, c'est pourquoi et de quelle façon cette différence a été instrumentalisée depuis des millénaires pour assigner à la femme une position particulière. Et dans le même genre, et pour aller plus loin, dans le même sens, l'évolutionniste Stephen Jay Gould a écrit un très beau livre qui s'appelle « La malmesure de l'homme » et qui comporte la malmesure de la femme, dans laquelle il montre comment à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, quand s'est aperçu que le cerveau de la femme était plus petit, parce qu'en fait, ce qui est proportionnel, c'est le poids du cerveau par rapport au poids du corps. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, voilà une preuve biologique d'une différence biologique de la femme qui montre que la nature l'ayant faite différente, il ne faut pas lui donner le droit à l'éducation et le droit de vote, parce que les différences biologiques nous montrent que ça n'est pas. Donc je crois que ce qui est important, c'est pour terminer peut-être... Alors, il y a eu le droit de vote, c'est pas si vieux que ça, hein. Ça fait que 60 ans, donc on s'est aperçu que malgré les différences biologiques entre hommes et femmes, ça n'empêchait pas la moitié de la population d'avoir le droit de participer aux décisions communes. Et puis, il y a quand même la différence de salaire. C'est intéressant de dire l'homme et la femme sont différents. Et d'ailleurs, ça se voit, il y a qu'à regarder le salaire moyen en France, à travail égal, cette différence se traduit par un salaire inférieur. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait. Et moi, je crois que le prix Nobel de physique a été donné... cette année, en 2011, à des personnes qui ont mesuré les distances et l'expansion de l'univers. Et le comité Nobel rappelait que cette mesure a commencé en 1908 par le travail d'une astronome qui s'appelait Henrietta Swan Leavitt et qui était une astronome à qui, comme à la quasi-totalité des astronomes, on interdisait d'observer les étoiles par le télescope. Ça, c'était réservé aux hommes. Sa différence biologique faisait que le travail qu'on lui donnait, c'était sur les plaques photographiques, de regarder des milliers d'étoiles et de dire exactement quelle était sa position. Bien, malgré cette différence et la discrimination dans son travail, elle a fait une des grandes découvertes du début du XXe siècle qui a pu montrer qu'il y avait des galaxies au-delà de notre Voie lactée.
Pierre-Henri Gouillon.
Oui, je suis content qu'on ait un peu posé le sujet. Maintenant, peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans le vif de la question. Je voudrais, moi, vous dire qu'en tant que biologiste, il y a au moins... parce que Jean-Claude a dit qu'il y a des différences évidentes. Alors, la question de savoir... Moi, je m'inquiète toujours des évidences dans ces domaines-là. Donc, c'est vrai qu'a priori, pour nous, il est évident que c'est les femelles qui font les petits et donc dans l'espèce humaine, les femmes. En tout cas, qui peuvent le faire. Ça ne veut pas dire qu'elles le font tout le temps. Effectivement, la différence entre un mâle et une femelle pour un biologiste, elle n'est pas aussi simple à définir qu'on pourrait le croire. Je sais bien reconnaître un gamète. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gamète ? C'est les cellules qui fusionnent pour fabriquer l'œuf qui fabriquera l'enfant. Donc, chez les femmes, c'est les ovules. Chez les hommes, c'est les spermatozoïdes. Et dans ce cas-là, les deux gamètes sont de taille très inégale. Je pense que tous les gens qui n'ont jamais vu ça, il faut qu'ils aillent sur le web chercher une photo, parce qu'un spermatozoïde, c'est vraiment une poussière par rapport à un ovule. Donc, la femelle, c'est celle qui produit le gros gamète, et le mâle, c'est celui qui produit le petit gamète. C'est la division de départ. Quand on produit les deux, on est hermaphrodite, et puis voilà. Dans une espèce comme la nôtre, effectivement, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a des tas d'espèces où c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des variations de taille, etc. Mais chez nous, ça, au moins, c'est assez simple. Il y a effectivement des individus qui produisent des gros gamètes et d'autres qui produisent des petits gamètes. La question de savoir ce qu'on en fait, ça va être le sujet du débat, mais je voulais déjà poser ça comme ça. Je voulais dire d'ailleurs que évolutivement, j'ai deux choses à vous dire là-dessus. Évolutivement, la plupart des modèles qui expliquent l'existence de ces deux types de gamètes font apparaître les mâles comme des sortes de parasites des femelles, puisque un objet biologique qui vous injecte son ADN pour que vous le reproduisiez sans y contribuer physiologiquement, c'est ça qu'on appelle un parasite. Et donc, quand vous attrapez la grippe, vous voyez, il y a un virus qui vient mettre son ADN dans vos cellules épithéliales et puis s'y reproduit à vos dépens. On peut voir l'homme, le mâle en tout cas, comme ça, sur un plan strictement biologique. Je n'y vois rien de moral, j'espère. N'oubliez pas la fameuse phrase de Thomas Huxley dans Le Compagnon de Darwin qui a dit « La nature n'est ni morale ni immorale, la nature est amorale ». Je crois qu'il faut, on répétera jamais assez ça. Donc voilà, premièrement ça. Et deuxièmement, la détermination, la façon dont se détermine le fait de produire ces gros gamètes ou de produire ces petits gamètes, donc d'être un mâle ou une femelle. Il y a beaucoup d'espèces chez lesquelles c'est des chromosomes différents qui font ça. Donc chez nous, les chromosomes X et Y, chez d'autres, Z et W quand c'est le mâle qui a les deux mêmes chromosomes ZZ et puis la femelle qui a les chromosomes différents ZW. Et puis, il y a des cas où c'est la température d'incubation des œufs. J'ai des tortues, des serpents, des poissons. Il y a des cas où c'est la mère qui, au moment de fabriquer l'œuf, décide ce qu'elle veut faire, en quelque sorte, chez les abeilles, chez les fourmis. La mère a le plein pouvoir pour fabriquer un fils et une fille, comme elle veut, selon qu'elle féconde ou pas l'œuf. Donc vous voyez, le mode de détermination n'est pas obligatoirement génétique, comme chez les mammifères. Mais ceci dit, il n'en reste pas moins qu'il y a deux sortes de gamètes. Ça, dans les espèces qui ont deux sortes de gamètes, il y a parfois donc, des individus qui produisent les petits et d'autres qui produisent les gros, et c'est ça qu'on appelle des mâles et des femelles. Pour moi, ça, c'est une donnée biologique. Comme disait Jean-Claude, ce qu'on en fait, c'est un autre problème.
Alors, la différenciation tout de même, le moment précis où cette différenciation vis-à-vis du sexe mâle ou femelle se produit, est-ce que c'est dès la fécondation ou est-ce que c'est
non,
ensuite ?
Non, c'est assez tard. Ça a été une surprise de voir que c'était aussi tard. En fait, on a des éléments pour s'en rendre compte. C'est que, par exemple, le fait que les hommes aient des glandes mammaires, les mâles de mammifères en général, ont des glandes mammaires plus ou moins avortées, parfois on les voit quand on a des tétons. Et la question s'est posée d'ailleurs pendant longtemps, il y a eu beaucoup d'explications là-dessus. On a imaginé que l'espèce humaine descendrait d'une forme hermaphrodite et que du coup ça serait des organes relictuels. Alors ça on sait que c'est pas vrai, dès les débuts des mammifères les sexes étaient déjà séparés, maintenant on le sait. Il y avait une autre hypothèse qui était que, alors ça c'est un peu délirant, c'est Gould fait tout un développement là-dessus dans une de ses nouvelles très savoureuses où il parle aussi de l'orgasme clitoridien, mais ça ne sera pas le sujet aujourd'hui.
Non, le sujet est déjà assez riche.
Donc, l'autre idée, c'était que dans le temps, quand les femmes n'avaient pas assez de lait chez les hommes préhistoriques, peut-être les hommes pouvaient compenser, etc. Bon. Et effectivement...
Cette différenciation, vous n'avez pas dit à quel moment, justement, aujourd'hui, justement, on considère qu'elle se produit.
Ah, vous voulez le nombre de jours du développement de l'embryon?
Je ne sais pas.
Je ne pourrais pas vous le dire. Je peux vous dire que c'est assez tard. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle nous avons des tétons et des glandes mammaires, nous, mâles mammifères, c'est que les glandes mammaires ont commencé à se développer avant que, les sexes se différencient.
D'accord.
Et comme c'est assez tardif, enfin les masses cellulaires destinées à devenir des glandes mammaires existent avant la séparation et avant la différenciation. Et donc c'est seulement après que si jamais on part vers la voie mâle, bah, ces glandes mammaires ne vont pas se développer vraiment. Si on part vers la voie femelle, elles se développent.
Je peux même ajouter dans le sens de ce que tu dis, hein, que les ébauches des organes génitaux des deux sexes commencent à se développer chez... les embryons des deux sexes. Et puis, en fonction du sexe génétique, c'est l'ébauche de l'organe génital de l'autre sexe qui va disparaître, régresser par des phénomènes de mort cellulaire. Donc, il y a vraiment un développement commun qui ensuite va s'affiner, basculer d'un côté ou de l'autre.
Je vous rappelle que vous écoutez le Club Science Publique sur France Culture et que nous débattons aujourd'hui de la question « Le genre peut-il s'opposer au sexe ?» avec deux membres du Club Science Publique, Jean-Claude Amezen, professeur d'immunologie à l'Université Paris 7 et Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous avons également deux invités, Thierry Hoquet, philosophe à l'Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense et Priscille Touraille, anthropologue au Musée de l'Homme du Muséum National d'Histoire Naturelle. Ah justement, Priscille Touraille, vous vouliez intervenir, bien entendu, et on a fait un tour de table un peu long qui permettait quand même de comprendre bien les bases de ce débat. Alors, pour vous, de votre point de vue, est-ce que le sexe biologique dont on vient de parler à l'instant existe vraiment ?
La question, c'est de savoir si le sexe biologique, c'est effectivement les gamètes, comme disait Pierre-Henri, ou et est-ce que c'est aussi les mâles et les femelles ? Moi je suis ethnologue, alors j'essaye de comprendre là où ça résiste dans les discours ordinaires, hein. Les gens ils n'arrivent pas à comprendre que les hommes et les femmes ça soit uniquement du culturel comme disent les études de genre, quand on croit dur comme fer, enfin tout le monde croit dur comme fer, c'est vraiment du domaine de la certitude que les mâles et les femelles c'est de la réalité biologique.
Pierre-Henri Gouillon vient de nous expliquer quand même qu'il y a une différenciation qui se produit à un moment.
Oui, mais c'est à mon avis là où il faut commencer. Et moi, je dis, enfin là, je défends les études de genre, mais à ma façon, je pense que les mâles et les femelles, de ce que disent les études de genre, ça n'a rien d'une réalité biologique. Et c'est ça que, vraiment, malheureusement, les études de genre ne sont pas arrivées à formuler, à mon avis, correctement. Alors, je m'explique, hein, donc les gamètes, tous les traits biologiques, les pénis, les seins, les clitoris, les vagins, les poils, les règles, les voies graves, les voies aiguës, les chromosomes X, les chromosomes Y, la testostérone, l'estradiol et j'en passe. Oui, ça c'est de la réalité biologique. D'ailleurs, Pierre-Henri vient de vous l'expliquer, la réalité biologique, la première, c'est les gamètes. C'est tous les traits qu'étudient les biologistes. En revanche, les mâles et les femelles, et les hommes et les femmes, dans l'acception biologique de ces termes, sont des individus définis par ces traits, et aussi par la fonction donc, qui servent que ces traits, à quoi ils servent dans l'organisme. Or, un individu défini par des parties et des fonctions de son corps, ce n'est pas une réalité biologique, c'est une représentation de la réalité. Ça, je pense que Thierry, tu es d'accord avec moi en tant que philosophe. C'est une opération de l'esprit, c'est un mot et c'est un concept. Et là, j'aime bien citer un autre théoricien de la biologie qui est Richard Dawkins. Il dit ça dans un livre célèbre qui s'appelle « Le gène égoïste ». Il dit « Mâle et femelle ne sont que des mots et on peut tout à fait les laisser tomber si on veut ». Puisque la définition du sexe, c'est la définition, comme tu dis Pierre-Henri, gamétique. Donc en fait, nous définir par notre fonction de reproduction, c'est finalement aussi arbitraire que de nous définir par notre fonction de respiration ou de digestion. Il y a donc aucune nécessité à faire ça, sinon pour induire les gens à se reproduire, ce qui est au cœur des analyses du genre, mais ça on pourra en parler plus tard.
On pourra en parler et il faut quand même noter à ce stade que si la différenciation est tardive dans le processus biologique entre hommes et femmes, elle est extrêmement précoce en termes de législation ou d'identité sociale. C'est-à-dire c'est la première caractéristique que l'on attribue à un individu sur son état civil, c'est d'être né et d'être un homme ou une femme. Pierre Rigouillon, ensuite Thierry Hocquet.
Je voulais juste dire que moi, j'ai mis longtemps à comprendre le discours que Priscille Thorat vient de tenir, et je suppose que pour tous les auditeurs, c'est la même chose. Ceux qui ne connaissent pas bien ça, en fait, il faut arriver à ressortir tellement de ce qu'on connaît et de ce qu'on croit établi que ça demande un vrai effort. Le problème est simplement, et je pense que c'est ce qu'elle a dit, définir un individu. En fait, on peut qualifier des individus, et au fond, les qualifier, ça serait bon, on est mâle et femelle, comme on est blond ou brun, comme on est noir ou blanc, comme on est grand ou petit. Mais à partir du moment où le fait de dire qu'un individu est mâle ou femelle, ça le définit, alors là, c'est autre chose.
C'est un peu ce qui se passe avec l'état civil.
Oui, moi je crois que c'est non seulement...
Mais
que ça le définit dans une grille de classification. Allons plus loin, je veux dire, la science, depuis les origines de l'humanité, ce qui en tenait lieu, ne cesse d'observer, et donc de voir des ressemblances et des différences. Mais on peut discriminer, classer, hiérarchiser, sans avoir besoin d'aucune différence biologique. Je vous rappelle que pour Aristote, le grand philosophe, on naissait, de la même façon que vous avez dit tout à l'heure, on naît homme ou femme, on naissait esclave ou homme libre. C'était biologiquement inscrit. Et c'était quoi ? Bien, les enfants d'esclaves naissaient esclaves, les enfants d'hommes libres naissaient hommes libres. Dans nos pays, on naissait roi ou on naissait serf. En Inde, on naissait de caste supérieure ou de caste inférieure. Vous pouvez hiérarchiser des personnes en inventant des différences qui n'existent que dans les représentations. Qu'après, vous preniez des différences qu'on peut mesurer, qui correspondent à quelque chose qu'on peut quantifier. Ce qui est important, encore une fois, c'est pas de décrire le monde, de décrire les innombrables différences, c'est, je crois, ce qu'on en fait. Et derrière cette... Comment est-ce que je veux dire ? Tu citais Huxley, le psychologue Adam Phillips dit, dès qu'on dit que quelque chose est naturel, c'est comme si la nature allait nous dire ce qu'il fallait faire. Or, la nature, elle ne nous dit rien. Elle se laisse décrire, mais elle ne nous dit rien de notre avenir et de notre devenir. Donc, je crois que la vraie question, c'est lorsque nous décrivons le monde, est-ce que nous croyons que dans cette description, il y a une prescription de comportement, de rôle, et en particulier quand elle se fait au détriment d'un certain nombre de personnes, ou est-ce que quand nous décrivons le monde, nous avons au fond de notre pensée, je crois que c'est ça que la question du genre, comme beaucoup d'autres questions, renvoie, la notion d'égalité. C'est-à-dire, la notion d'égalité, c'est que, indépendamment de toutes les différences qu'on peut mesurer ou qu'on peut imaginer, chacun a la même valeur et devrait être traité de la même manière.
Thierry Hocquet.
Oui, je crois que tout ce qui vient d'être dit montre bien qu'on ne sait pas de quoi on parle quand on dit que les hommes et les femmes sont des mâles et des femelles. Puisque finalement, déjà le terme sexe en biologie, il a plusieurs significations. Il peut désigner non seulement ce que nous appelons sexe, c'est-à-dire la sexualité, il peut désigner un mode de reproduction. Et à ce moment-là, les gamètes sont vraiment impliqués. Et il peut désigner éventuellement un dimorphisme entre deux formes à l'intérieur de l'espèce. Hein. Et à ce moment-là, comment on va qualifier mâle et femelle ? Est-ce que il va... et finalement, la question que posait Priscille, je crois qu'on peut la reformuler comme ça. C'est-à-dire, de quoi est-ce qu'on peut dire qu'il est mâle ou femelle ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit dire qu'un organisme est mâle ou bien qu'une structure génitale, par exemple, est mâle ? Ou bien est-ce qu'un gamète, c'est-à-dire une cellule de l'organisme, est mâle ? De quoi on parle quand on dit...
Une personne.
Ah, alors si on parle d'une personne, c'est véritablement ça le problème. C'est-à-dire, Pierre-Henri, qui connaît bien la botanique, montre par exemple que chez les plantes, il y a énormément d'hermaphrodites, par exemple. C'est-à-dire qu'un même individu, il porte des organes mâles et des organes femelles. Alors vous allez me dire, on est très loin de ce que disait le député concernant nous, les mammifères, les mâles et les femelles, c'est bien différencié. Oui, mais ce que veut dire la leçon qu'on peut tirer des hermaphrodites en botanique, c'est-à-dire, c'est finalement cette question. On ne peut pas dire de l'individu qu'il est mâle ou femelle. On voit bien qu'en fait, il s'agit de définir une fonction. La fonction de produire un certain type de cellules reproductrices.
D'ailleurs, chez les plantes, les agronomes, quand ils ont des plantes hermaphrodites et puis qu'ils voient arriver des individus qui ne produisent pas de pollen, donc que nous, on devrait appeler des femelles, et bien souvent, on les appelle des mâles stériles. On les appelle mâles stériles pour dire que la stérilité mâle, c'est l'absence d'étamine. Donc ça veut bien dire que le même objet biologique, une femelle, peut être appelée femelle ou mâle stérile selon dans quel angle on se place.
Oui. Juste un point, moi je crois qu'il y a deux choses. Il y a la difficulté de décrire le monde, qu'est-ce que c'est masculin, féminin, qu'est-ce que c'est le sexe mâle, femelle, c'est une chose. Et puis il y a encore une fois ce qu'on en fait. Moi je crois par exemple, la différence de couleur de peau, elle n'est pas intrinsèquement extraordinairement compliquée à définir, c'est ce qu'on en a fait en termes de discrimination raciale et de comportement raciste qui pose un problème. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre la difficulté qu'on peut avoir à comprendre un phénomène, c'est toujours plus compliqué qu'on ne le croit, mais même quand ce n'est pas extrêmement compliqué ou qu'on pense que ça ne l'est pas, ce n'est pas le fait que ça ne soit pas compliqué qui doit permettre de la classification, de la hiérarchisation, de la discrimination. Quand bien même les différences entre un enfant de sexe mâle et un enfant de sexe féminin seraient radicalement différentes, ce qu'elles ne sont pas sur plein de plans, ça n'autoriserait, me semble-t-il, en rien le fait de ne pas leur donner les mêmes droits, la même place, la même possibilité de se construire d'une manière qui n'est pas prédéterminée. Il y a le grand problème, c'est qu'on ne se construit pas seul, c'est l'éducation, c'est les adultes autour qui nous construisent, et plus leurs représentations de ce qu'on est ou de ce qu'on va devenir sont prégnantes, et plus c'est de la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'ils font en sorte que le petit garçon ou la petite fille deviennent ce que eux pensent qu'ils ou elles sont.
Priscille Touraille, est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer que finalement la notion ou la mention du sexe dans l'état civil est déjà un point contestable et peut-être qui induit justement beaucoup de choses ensuite dans le processus d'éducation et que peut-être à terme on peut imaginer le supprimer?
Ouais, il y a quelques mouvements dans le monde et en France qui ont proposé ça déjà effectivement. Mais le problème...
Qu'est-ce qu'on mettrait à la place?
Est-ce que le problème, il est vraiment de mentionner le sexe? C'est plutôt que le sexe induit le genre. C'est-à-dire que c'est les notions...
On retombe sur cette notion qui n'est pas forcément complètement
C'est les notions de justement, d'hommes et de femmes qu'il faudrait laisser tomber. Mentionner le sexe, ça peut être très utile. En sciences sociales, c'est très utile d'avoir cette caractéristique du sexe parce que ça permet de comprendre des choses. Mais...
Comment créer cette caractérisation au départ et ensuite l'abandonner dans la pratique ou finalement elle est quand même utilisée en permanence pour définir quelqu'un?
Le sexe entend, oui, mais c'est ça, c'est la définition.
C'est l'état
des personnes
civil, la définition
qui fait problème.
Ce n'est
pas le sexe en lui-même pour moi. De dire qu'on a tel sexe ou tel autre, ce n'est pas un problème. C'est de faire de ces caractéristiques la définition de la personne.
Comment l'éviter?
Ce qui engage la différenciation pour nous, enfin la différenciation sociale, c'est-à-dire la création de différences psychocognitives et une différenciation dans l'apparence aussi. Enfin, on est très très différencié au niveau de l'apparence et ça c'est un travail culturel.
Thierry Hoquet.
Psychocognitif, c'est très important parce que en fait, quand on regarde quelqu'un dans la rue et qu'on dit c'est un homme ou c'est une femme, on ne sait pas si cette personne produit des spermatozoïdes ou des ovules, on ne sait même pas à quoi ressemblent ses organes génitaux. Donc ça montre bien qu'il y a tout un travail d'interprétation qu'on fait sur des signes. Et finalement, qu'est-ce qui dérange tant que ça? C'est-à-dire la peur de se tromper dans l'assignation qui fait qu'on est, par exemple, transphobe ou qu'on a peur des individus qui piratent le genre en ayant une apparence qui n'est pas celle de leurs organes génitaux. Bon, quel est le problème avec ça, finalement? On voit bien la biologie, finalement, elle a peu de choses à nous dire sur ce que c'est qu'un homme et une femme dans la société.
On voit bien, c'est le cas des transsexuels qui ont l'apparence, par exemple, d'une femme et qui sont, finalement, reconnus et identifiés comme tels dans le milieu social. On leur donne des attributs féminins qui sont liés à leur apparence et, dans ce cas-là, pas à leur sexe biologique.
Voilà, alors on pourrait dire ça, il s'agit d'élaboration dans la culture humaine ou d'un jeu à partir de la différence des sexes.
De codes aussi.
Un jeu à partir des codes. On pourrait dire également qu'il y a des espèces de poissons où le transsexualisme est quelque chose de naturel, c'est-à-dire où un individu peut être femelle puis devenir mâle. Donc on pourrait aussi considérer que les choses qui sont attribuées dans la société française ou dans la culture aux études de genre, c'est également des leçons qu'on peut tirer de l'étude de l'histoire naturelle.
Pierre-Henri Gouillon, justement, sur l'histoire naturelle, qu'est-ce qu'elle nous apporte?
Oui, mais l'histoire naturelle, voilà ce qu'elle nous apporte déjà. C'est qu'on sait bien que toute caractéristique d'un être vivant est issue de l'interaction entre ses caractéristiques génétiques et les caractéristiques de l'environnement dans lequel il s'est développé. Et ça, je pense que si on commençait par insister à fond là-dessus, avant de qu'enseigner les gènes de Mendel et les petits pois et machin, il y aurait des choses qui iraient mieux, parce que quand même d'innombrables débats, j'ai déjà fait mention à cette antenne, je ne recommencerai pas, sur la part de l'acquis et la part du génétique dans les comportements humains, seraient considérablement...
Ça fait partie quand même du sujet, cet angle né acquis, elle est forcément très présent.
Et ces débats sont en général totalement pourris par le fait qu'il y a une sorte d'idée que les gènes font quelque chose et puis que l'environnement peut modifier ce truc-là. Il est essentiel, il serait essentiel dans notre culture que les gens finissent par comprendre que les gènes ne font rien. Ils ne font rien hors d'un environnement. D'abord, les gènes eux-mêmes, ils ne font jamais rien. Un gène, c'est un truc écrit sur une molécule inerte. Hein. Donc, pour que un gène ait une conséquence, l'existence d'un gène ait une conséquence, il faut tout un système pour le lire, etc. C'est-à-dire tout le système qui, pour le cas de notre espèce, se trouve déjà, les protéines, dans l'ovule que notre mère
Est-ce que ça veut dire qu'on peut inhiber la lecture et l'expression d'un gène?
On pourrait inhiber la lecture et l'expression d'un gène, et je pense que d'ici quelques temps, on aura parfaitement les moyens, d'ailleurs, de faire une manipulation sur un œuf qui change le sexe de l'individu qui en sortira. Donc ça, c'est pas un problème.
Je rappelle l'affiche de Christine Boutin sur ce sujet, qui est militante, effectivement, des personnes qui contestent un petit peu cette approche, et qui, cette affiche montre un bébé et entre guillemets, une phrase qui est « Tu seras une femme, mon fils ».
Voilà. Et donc, Christine Boutin a parfaitement compris que l'environnement pouvait tout changer. C'est ça qui la dérange, justement. Donc, je pense que le point sur lequel je voulais venir d'abord, hein, parce que j'ai peur qu'on le rate dans cette émission, c'est que ça, c'est les bases de la biologie. Le fait que l'environnement et les gènes interagissent pour faire un organisme. Donc dire que ce n'est pas du programme des SVT, pour ce qui concerne les différences entre genre et entre sexe dans notre population, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que si jamais on dit que les SVT ne doivent parler que des gènes, or bien sûr, il y a des tas d'entreprises de biotech qui aimeraient bien que ça soit comme ça. Mais si on veut que les gens soient aptes à réfléchir à ce que c'est qu'un être vivant, à comment il fonctionne et à quelles conséquences ça peut avoir aussi bien dans la nature que dans les populations humaines, alors il est essentiel que l'environnement, la façon dont l'environnement et les gènes interagissent pour fabriquer un organisme avec les caractéristiques qu'il a et la façon dont la société après traite ça, c'est complètement une part absolument intégrante des sciences de la vie et de la Terre.
Cécile Tourelle, ça rejoint très précisément à votre approche. Le biologique n'est pas du tout en opposition. Il semblait qu'au départ, ça pouvait être le cas. Moi je n'ai pas l'impression.
J'étais en train de réfléchir à l'opposition, là, elle se fait beaucoup sur les notions d'homosexualité et d'hétérosexualité. Et je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pourquoi on oblige les gens à se différencier au niveau psychique et au niveau de l'apparence. Les études de genre ont montré très clairement. Et ça, c'est pas dans les manuels de SVT, malheureusement, qu'il y a une obligation, que ça correspond à une obligation à l'hétérosexualité, parce que c'est comme un dogme de dire que les gens, il faut qu'ils se différencient, parce que ça, c'est la condition du désir, enfin de l'attirance entre les personnes.
Donc de la reproduction. Une fonction un peu importante.
Mais là, si on veut discuter avec les biologistes, c'est amusant parce que on n'aurait pas, enfin, si vraiment l'hétérosexualité était naturelle entre guillemets, on n'aurait pas besoin de se différencier parce que les gens, c'est comme
ça serait tout seul.
On n'a pas besoin d'obliger les gens à manger, à respirer ou à dormir, voilà. Et il faut dire aussi qu'il y a non seulement il y a une obligation à l'hétérosexualité, Mais il y a une, il y a une tabouisation et une criminalisation dans certains pays de l'homosexualité. Donc là, on voit bien qu'il y a tout un travail culturel sur ce...
Jean-Claude Amezen.
Oui, moi je vous crois, on a discuté dans une précédente émission, pour reprendre ce que dit Pierre-Henri, hein, sur non seulement l'environnement et l'intérieur et l'extérieur interagissent en permanence, mais il y a des phénomènes d'hérédité de ce qu'on appelle les caractères acquis, c'est-à-dire de l'influence de l'environnement sur les parents ou sur les générations d'avant. Donc c'est ce dualisme qui ferait qu'il y a d'un côté la nature et d'un côté la culture, d'un côté le biologique et d'un autre côté l'environnement, a quelque chose d'extraordinairement réducteur. Et c'est cette interaction permanente qui est d'une très grande richesse. Mais
c'est toujours plus simple de séparer, en fait.
Bien sûr. Et alors, ce que je voulais dire dans cette question de séparation, moi, ce qui me frappe, bien sûr, dans ce débat, et je crois que c'est les mêmes députés, en tout cas la même coloration, qui dit, voilà, il y a une identité naturelle. C'est masculin, féminin. Mais c'est les mêmes qui ont fait un débat sur l'identité nationale. Ils ont dit, il y a une identité nationale. C'est les mêmes qui ont dit, la double nationalité, c'est gênant, on ne sait plus très bien, c'est un peu la même chose. Alors, vous êtes de tel pays ou de tel autre. Et donc, il y a cette envie, au fond, de ranger les gens dans une case et dans un tiroir. Et moi, je crois, il y a un très beau livre qu'a fait le prix Nobel d'économie Amartya Sen, il y a un an, qui s'appelle « Identité et violence, l'illusion d'une destinée ». Et dans laquelle il dit, nous avons des tas d'identités multiples, changeantes, parfois éphémères, parfois durables, biologiques, personnelles, professionnelles, culturelles, nationales, etc. Il ne dit pas qu'il faut les effacer. Il ne dit pas qu'il faut rien dire, il faudrait qu'il n'y ait pas de nom, pas de pays, etc. Il dit qu'il faut prendre en compte que chaque personne dépasse chacune de ses identités et que de vouloir l'emprisonner, homme, femme, nationalité, religion, culture, dans une seule de ses identités, comme si ça la définissait et que ça préjugeait de son avenir, d'où le soutien l'illusion d'une destinée, et dit-il, la source de violence et de discrimination majeure dans le monde. Donc je crois que le problème n'est pas encore une fois tant la nature des différences que nous pouvons regarder, que nous pouvons même valoriser, mais encore une fois le risque d'emprisonner les personnes dans une seule de ces différences, comme si c'était ce qui définissait cette personne.
Vous écoutez le Club Science Publique sur France Culture et nous débattons aujourd'hui de la question « Le genre peut-il s'opposer au sexe ?» avec deux membres du Club Science Publique, Jean-Claude Amezen, professeur d'immunologie à l'Université Paris 7, et Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, avec aussi deux invités, Thierry Hoquet, philosophe à l'Université de Paris-Ouest, Nanterre La Défense, et Priscille Touraille, anthropologue au Musée de l'Homme du Muséum National d'Histoire Naturelle. On aborde la dernière partie, peut-être que justement on peut faire un peu de prospective, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait ressortir de ce débat, en dehors de savoir s'il faut retirer les manuels scolaires ou pas, ce qui est quand même une petite partie du problème. Ensuite, sur justement la définition, moi j'en reviens à cette notion d'état civil, ce qui est quand même la fiche sur laquelle sont inscrites les caractéristiques principales d'une personne, et qui ensuite va la fiche qui va suivre cet individu toute sa vie et être une référence permanente quand il va chercher un emploi, quand il va faire des tas de choses. Donc c'est peut-être sur cette fiche signalétique qu'il faut se pencher, Thierry Hoquet.
On peut se demander effectivement à quoi ça sert de marquer dans l'acte de naissance d'un individu qu'il est de sexe masculin ou féminin.
Ce qui est la notion juste après sa date de naissance.
Voilà. Alors Priscille nous dit, oui, dans la société, une fois que les individus sont adultes ou même à l'école, ça sert à identifier des discriminations, des inégalités, et les études de genre travaillent là-dessus. Oui. Alors, mais votre question, elle est différente. C'est si on supprimait le marquage au départ. Et je crois que les parallèles qui ont été faits par Jean-Claude Amezen, notamment avec la question de la race, posent cette question très fort. C'est, finalement, aujourd'hui, quand on a effacé le marquage racial dans la République, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les individus. Ça ne veut pas dire effectivement que si on avait un outil de marquage d'origine, ça ne pourrait pas permettre de mettre en avant des discriminations. Mais en tout cas, ça nous permet de penser finalement, voilà, on pense sans la race des individus. Qu'est-ce que ça ferait si on pensait sans le sexe ? Eh bien, est-ce que ça influerait, par exemple, sur la différenciation des individus, sur le fait qu'on arrêterait d'offrir du rose aux petites filles et du bleu aux petits garçons? Parce que, en fait, beaucoup d'études essayent de montrer que tout cela est culturel ou n'est pas culturel, au contraire, est véritablement marqué, alors je ne sais pas dans quoi, dans la structure des organes génitaux ou dans les chromosomes.
Il y a des études... La constitution hormonale, ce qui est quand même plus crédible, c'est là que...
Carré, voyons.
Je veux pas t'interrompre trop, hein, mais je voulais juste te dire, on sait bien que les hormones agissent sur beaucoup de choses, donc la question de savoir jusqu'à quel point est-ce que ces hormones peuvent agir sur des choix comme ça, moi j'en ai aucune idée personnellement. Ce dont je suis sûr, c'est qu'effectivement, tu as raison dans le fait que la façon dont on traite les enfants joue aussi sur leur cocktail hormonal, pas seulement leur chromosome.
Si je peux juste terminer là-dessus, hein. Il y a une étude qui a voulu montrer qu'en fait, quand on mettait des petits singes mâles et des petits singes femelles avec des poupées ou avec des camions, les mâles jouaient préférentiellement avec les camions. Donc, ouais. Et par là, qu'est-ce qu'on voulait dire ? On voulait montrer que les mâles singes avaient un rapport privilégié à l'activité, parce que le camion égale motricité, voilà.
Donc, le savent les singes ?
Voilà, de quoi on parle finalement ? Donc j'ai l'impression qu'on voit bien ici une volonté de véritablement ancrer dans le sexe biologique une destinée pour les individus. Et ça, c'est véritablement problématique.
Priscille Touraille.
Oui, moi, au-delà de la réforme des manuels de SVT, je pense que c'est les dictionnaires qu'il faudrait réformer, même plus encore que les cartes d'identité. C'est-à-dire, c'est les définitions courantes, c'est les définitions de la langue courante. Et c'est si les sciences sociales doivent servir à quelque chose, je pense que là, on devrait se bouger pour justement changer les notions faire que la notion de sexe soit plus aussi ambiguë qu'elle ne l'est actuellement, qu'elle définisse trois ou quatre choses différentes et que, eh bien, on reprenne les notions de mâles et des femelles dans le champ du genre et qu'on laisse, par contre, moi je suis pour qu'on laisse la notion de sexe aux biologistes et qu'on arrête dans les sciences sociales, la philosophie y compris, la psychanalyse y compris, d'utiliser le terme sexe, surtout sexe au pluriel, pour définir les individus. Et ça c'est ce qui fait partie du marécage conceptuel actuel et qui fait que personne ne peut plus s'y retrouver.
Est-ce que les mots masculins et féminins rejoignent cette problématique ? La définition du dictionnaire commence également par définir un genre aux mots.
Oui, mais enfin, masculin-féminin, le problème, c'est que ça définit à la fois les traits biologiques et les traits, psychocognitifs. Donc là, il faut...
Ça m'étonne d'ailleurs que Pierre Henri Bouillon a demandé qu'on renomme le genre, ce genre homo. Je ne comprends pas comment elle supporte qu'elle s'appelle comme ça.
Jean-Claude Avezen.
Je crois encore une fois que le vrai problème, si on veut s'interroger sur nos conduites, si on veut se demander au fond au bénéfice de qui et au détriment de qui ces descriptions sont faites. Ce qui est important, c'est pas tellement, me semble-t-il, de gommer toutes les différences et de dire voilà, je ne suis personne. Vous savez que la revendication d'avoir un nom, le fait de ne pas avoir de nom est vécu par des enfants comme quelque chose de très grave.
C'est assez récent d'ailleurs.
La Convention internationale de l'ONU des droits de l'enfant donne à chaque enfant le droit d'avoir un nom, donc de pouvoir se présenter. Maintenant, avoir mentionné un certain nombre de ces particularités, encore une fois, c'est pas tellement ça la question. C'est pas de dire je vous ai pas vu, je vous ai pas entendu, je sais pas qui vous êtes. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Je crois que ça interroge beaucoup plus profondément une société de se dire est-ce que quand je vois ce que je crois être une différence, j'en déduis un comportement stéréotypé par rapport à l'individu, à la personne, ou est-ce que je prends cette personne comme ayant, en plus de ce qu'elle a d'égal à tous les autres, telle et telle particularité ? Donc je crois qu'il y a vraiment une notion. Vous savez, il y a eu le même problème. Et c'est peut-être intéressant sur le CV anonyme pour l'emploi.
J'allais dire.
Est-ce que si on dit... Alors, on l'a fait pour des discriminations qui sont des discriminations culturelles, qui sont des discriminations de provenance géographique de la famille. Mais on pourrait dire pour l'homme et la femme, puisque les femmes sont sous-payées. Mais est-ce que le vrai problème, c'est de ne pas savoir qui on engage et ensuite de mal traiter la femme parce qu'on a l'habitude de moins bien traiter la femme qu'on emploie, de moins bien la payer une fois qu'on l'a engagée? Ou est-ce que le vrai problème, c'est une société qui fait retour sur elle-même et qui se dit, comment est-il possible en 2011 que les entreprises acceptent et que les employés acceptent et que le pays accepte qu'à travail égal, une femme soit moins payée? Et je crois que c'est pas le fait de dire que c'est pas une femme qui changera le fait, c'est profondément nos représentations et nos comportements. En ce qui concerne, d'ailleurs, il y a une chose en biologie qui est quand même intéressante, et c'est là que l'éducation et les représentations joueront l'important, c'est que ce qui se développe le plus tard et le plus lentement et le plus tardivement chez le nouveau-né, c'est le cerveau. Et ce développement extrêmement tardif, qui est une des particularités de notre espèce et de certains primates non humains, c'est celle qui montre à quel point la culture s'imprime dans la nature, c'est-à-dire dans la structuration même de notre cerveau pendant les premières années de notre vie. Donc je crois qu'il faut, réfléchir, je veux dire parler, dire, se comporter avec les autres n'est pas neutre. Et je crois qu'il faut réfléchir profondément plutôt que de se dire je préfère ne pas savoir qui est en face de moi, comme ça je le discriminerai pas ou je la discriminerai pas, se dire qui que ce soit qui est en face de moi, je ne dois pas le ou la discriminer.
Thierry Hoquet, pour conclure un peu.
Pour moi, je crois que l'introduction d'un chapitre sur les études de genre dans les manuels de biologie est quelque chose de très important, parce que les adolescents sont un âge où la pression à l'hétérosexualité est peut-être la plus forte. C'est-à-dire, c'est une période où les interrogations sur l'identité sont les plus fortes, et où à la fois le système normatif pèse très fort, à la fois de la part des parents, mais aussi de la part des autres camarades. Donc, dire dans un manuel de biologie, attention, on vous enseigne la reproduction, on vous enseigne un ensemble de faits, mais quand il s'agit de l'espèce humaine, les choses sont beaucoup plus compliquées, il y a du culturel, il y a une diversité de destinées individuelles. Voilà. Rappeler ça simplement comme une sorte de post-script aux études de biologie, c'est très important et ça ne remet pas en cause tout ce qu'on a appris avant.
Jean-Claude Amezen, en deux mots.
Juste un mot, parce que je pense que c'est très important. Il y a aussi, paradoxalement, et c'est très drôle, et y compris les mêmes personnes, considèrent que nous pouvons être très fiers de faire des tas de choses pas naturelles. C'est totalement non naturel pour un mammifère sans ailes de voler. Nous volons jusqu'aux planètes lointaines. C'est totalement non naturel de pouvoir lire ce qu'ont écrit des gens qui sont morts depuis 2000 ans. L'invention de l'écriture, c'est il y a 7000 ans. Avant, on ne lisait pas. C'est pas du tout naturel de porter dans son corps le rein d'une autre personne. C'est pas du tout naturel de vacciner les enfants et de les protéger contre les maladies infectieuses. Donc il faut voir que dans certains domaines, nous sommes fiers d'une certaine façon d'avoir changé nos rapports avec ce que nous appelons la nature, et dans d'autres domaines, on est totalement effrayé.
Donc c'est l'heure de la rubrique coup de cœur, coup de sang du Club Science Publique, qui veut commencer donc à nous confier un événement, un livre, une manifestation qui a retenu son attention de façon positive ou négative d'ailleurs, suivant le choix que vous ferez, Pierre-Henri Gouillon.
Moi, je n'avais rien prévu jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 2 heures. Et puis, il y a 2 heures est tombée une nouvelle. C'est que les arracheurs de vignes de Colmar, de vignes transgéniques à Colmar, donc ont eu des peines plutôt plus légères que ce qu'on pouvait imaginer. Au lieu des 500 000 dollars de préjudice scientifique demandés, 5 000 dollars, pardon, euros, demandés par l'INRA, il y en a que 50 000.
Malheureusement, on ne va pas relancer le débat, c'était quand même une recherche scientifique.
C'était une recherche prétendument scientifique. je pense qu'il y a là.
Il y a matière à débattre.
C'est bien que ça ne soit pas trop grave. Voilà.
Très bien. Ça ne nous étonne pas de votre part que vous vous réjouissiez que la peine soit plus faible que prévu. Thierry Hoquet.
Oui, moi, pour rester dans le thème de l'émission, je voudrais parler des larmes de Ségolène Royal. On les a beaucoup associées à un grand retour de la féminité. Hein. Ségolène Royal pleure, donc c'est une femme. Voilà, moi je suis choqué par ce genre d'association. Voilà, il y a une personne qui s'est investie dans un travail, dans une campagne, dans quelque chose d'épuisant. Et les larmes sont une réaction physiologique naturelle, que l'on soit un homme ou une femme.
Très bien. En effet, cette petite vidéo, je crois, de 40 secondes a été extraordinairement visionnée, commentée, analysée. Jean-Claude Amezen.
Je voudrais parler d'un film que je trouve magnifique et bouleversant, qui s'appelle Nostalgie de la lumière, de Patricio Guzman, et qui mêle dans un tout autre domaine cette question des relations entre l'activité scientifique, les activités humaines. C'est un film qui se passe dans le désert d'Atacama, au Chili, où vous savez que sont les plus grands observatoires, les plus grands télescopes du monde, et qui montrent, c'est merveilleux, comment on observe les étoiles dans le ciel, ce que pensent les astronomes. Et puis, parce que ce désert est extrêmement sec, c'est pour ça qu'on peut y observer sur des montagnes élevées le ciel sans interférence, on y trouve aussi des momies précolombiennes, et donc il y a des archéologues qui travaillent. Et puis, dans le même désert, sous les observatoires, il y a des femmes qui creusent le sol, et les archéologues leur ont appris à creuser le sol, parce qu'elles cherchent le corps de leurs disparus pendant la dictature de Pinochet. Et donc il y a une interrogation sur qu'est-ce que c'est la science, qu'est-ce que c'est la mémoire, qu'est-ce que c'est cette approche. Et il y a un astronome qui dit, au fond on fait la même chose, on va vers le passé, la différence c'est que nous on le fait le cœur léger, alors que ces femmes en dessous, elles peuvent pas dormir. Et il y a une femme qui dit, je trouve ça très beau, si seulement les télescopes pouvaient pointer vers le sol et nous aider dans nos recherches.
Merci beaucoup. Priscille Touret, je crois que vous ne souhaitiez pas profiter de cette possibilité de coup de cœur.
J'ai donné des livres sur le site.
Effectivement, il y a un très grand nombre de livres, grâce à vous, qui pourront vous aider à approfondir le débat du Club Sciences Publiques qui s'achève maintenant. Merci à Jean-Claude Amezen, Pierre-Henri Gouillon, Thierry Hoquet et Priscille Touraille d'y avoir participé. Donc, comme je le disais à l'instant, sur le site de Sciences Publiques, vous trouverez toutes ces références d'ouvrages et vous pouvez également y réécouter cette émission pendant 500 jours et la podcaster pendant une semaine. La semaine prochaine, vendredi 21 octobre, Sciences Publiques reviendra sur un sujet sensible autour de la question « Peut-on évaluer le risque des nanotechnologies ?» Je jette un œil vers Pierre-Henri Gouillon qui est sensible à ce genre de sujet. Mais là, nous en parlerons à la suite du compte-rendu de l'Académie des sciences qui a été publié le 26 septembre et qui est intitulé « Nanosciences et nanotechnologies, espérances et inquiétudes ». Parmi les critiques formulées à l'encontre des nanotechnologies, oui, c'est l'Académie des sciences que, effectivement, parfois, vous pouvez critiquer par ailleurs. Donc cette académie s'est interrogée sur les dangers pour la santé qui sont souvent cités comme un risque majeur avec les nanotechnologies. Nous nous interrogerons sur les recherches réalisées ou non dans ce sens, parce qu'il est particulièrement délicat d'évaluer les effets sur les organismes d'objets aussi petits. Nous en débattrons avec nos invités, parmi lesquels Louis Laurent et Stéphanie Lacour. Et je vous rappelle notre prochain rendez-vous pour l'enregistrement de Sciences Publiques en public, en partenariat avec l'IHEST. Ce sera le mardi 25 octobre à 18h. Rendez-vous à la porte A de la Maison de la Radio, donc pour un enregistrement au studio 106 entre 18h et 20h. Et le sujet de notre débat sera quel rôle joue la science dans les stratégies de puissance. Sciences Publiques, Laetitia Coya, Vincent Ronet, Catherine Donnet, Michel Albergonti.